Chapitre 17. Mars. Stabilisation amorcée, annonça Manmut à Orfu via le port-com. Vitesse de rotation ramenée à une révolution toutes les 6 secondes. T'engages assez proche de zéro.
Je vais tenter de réduire le roulis, dit Orfu. Préviens-moi quand la calotte polaire sera dans le réticule.
Ça y est. Oh, non. Elle dérive. Oh, merde. Quel foutoir.
Manmut s'escrimait sur la mire vidéo, s'efforçant de viser cette tache floue qu'était la calotte polaire, à peine visible au sein d'un nuage de débris et de plasma encore éblouissant.
« Oui, » fit Orfu depuis la soute, « je suis foutu. »«
Je ne parlais pas de toi. »«
Je sais, mais je suis quand même foutu. Je donnerais la moitié de ma collection de Proust rien que pour récupérer l'un de mes 6 yeux. »
« On va te brancher sur un canal vidéo !» dit Manmut. Oh, « Bon sang! Voilà qu'on se remet à tourne-boulet !»«
Aucune importance tant que nous ne sommes pas entrés dans l'atmosphère. Ça nous permet d'économiser de l'énergie et du carburant. Et non, tu ne pourras pas me rendre la vue. J'ai procédé à une évaluation des dégâts une fois branché ici, et je n'ai pas seulement perdu mes yeux et mes caméras. J'étais tourné vers la proue lorsque le vaisseau a été frappé. Et l'éclair m'a calciné tous les circuits jusqu'au niveau organique. Mes nerfs optiques internes ont été réduits en cendres.
« Je suis navré, » dit Manmut.
Il eut un haut le cœur qui n'était pas seulement dû au tangage. Au bout d'une minute, il déclara
« Nous sommes menacés de pénurie en ce qui concerne les consommables, l'eau, l'air, le carburant de nos réacteurs. Tu es sûr de vouloir rester dans ce nuage de débris ?»
C'est notre meilleure chance. Pour un radar, nous ne sommes qu'un fragment du vaisseau parmi d'autres.
Un radar ? S'emporta Manmut. Tu as vu ce qui nous a attaqué ? Un putain de char ! Tu crois qu'un char comme ça est équipé d'un radar ?
Orfu émit le grondement qui lui servait de rire.
Penses-tu qu'un char soit capable de produire une décharge énergétique comme celle qui a vaporisé un tiers de notre vaisseau, sans parler de Koros et de Ripo ? Oui, Manmut, j'ai vu ce fameux char, c'est la dernière chose que je verrai jamais. Mais je ne pense pas une seconde qu'il s'agissait d'un char transportant un homme et une femme surdimensionnés et invulnérables au vide spatial. Pas question, ça sentait trop le fabriquer.
Manmut n'avait rien à répondre à cela. Il regrettait qu'Orfu n'ait pas éliminé le roulis, pas plus que le tangage ni le lacet d'ailleurs, mais tous les débris du nuage étaient en mouvement, aussi était-il logique qu'il les imite.
« Tu as envie de parler des sonnets de Shakespeare ?»
s'enquit Orfu Dio.
« Tu déconnes, quoi ?»
Les Moravec adoraient les expressions imagées des humains d'antan, notamment les plus outrancières.
« Oui, » répliqua Orfu. « Je déconne bel et bien, mon ami. »«
Minute, minute, les débris se mettent à luire. Et nous aussi. Ionisation en hausse. »
Il se félicita de son ton posé. Devant eux, les plus volumineux des fragments du vaisseau commençaient à rougeoyer. La proue de la Dame Noire en faisait autant. Les capteurs externes du submersible rapportèrent une augmentation de la température de la coque. Ils entraient dans l'atmosphère martienne.
« Il est temps de remettre les choses en place »,
annonça Orfu. Il assimila les données relayées par la coque, exploitant les logiciels téléchargés par Koros 3 pour activer les réacteurs fixés au submersible et aligner ses gyroscopes dans l'espoir de le contrôler.
« Est-ce que le roulis a disparu ? »
demanda-t-il.
« Pas tout à fait. »«
Tant pis, je vais manœuvrer ce tas de ferraille avant qu'il ne prenne feu. »
Ce tas de ferraille s'appelle la Dame Noire, et c'est peut-être lui qui va nous sauver la vie,
dit Manmut d'une voix glaciale.
Eh oui, mais oui. Préviens-moi quand le repère du moniteur vidéo arrière sera calé sur l'horizon martien au niveau du pôle. C'est à ce moment-là que je réduirai le tangage. Bon Dieu, que ne donnerais-je pas pour récupérer l'un de mes yeux? Pardon, je ne le dirai plus.
Manmut fixa le moniteur. Vu l'expansion du nuage de débris durant la demi-heure écoulée, seule la planète Mars lui permettait de fournir à Orfu des mesures fiables. Même les deux petites lunes étaient invisibles. Les réacteurs produisirent un bruit sourd et le submersible endommagé pivota lentement sur lui-même, la caméra de proue laissant échapper Mars pour ne plus montrer que du plasma étincelant, du métal fondu incandescent et un million d'éclats étincelants, seuls vestiges de leur vaisseau et de leurs compagnons de voyage. La masse orange, rouge, vert et ocre de Mars emplit le champ de la caméra arrière et le repère que Manmut avait placé sur l'écran, conformément aux instructions d'Orfu, sembla parcourir la côte voilée de nuages, puis une étendue de mer bleue, puis une calotte blanche.
« On s'aligne sur le pôle, » annonça Manmut. « Et voici la courbure de l'horizon. »
« Ok, » fit Orfu tandis que les réacteurs s'enclenchaient. « Est-ce que tu vois le pôle sur la caméra arrière ?»«
Non. »«
Est-ce que tu vois des étoiles identifiables ?»«
Non, uniquement des ions autour de la coque. »«
Bon, inutile de faire du zèle, » déclara l'ionien. « À présent, je vais utiliser les réacteurs arrière comme frein moteur. »
Coros 3 comptait utiliser le chapelet de réacteurs côté proue afin de nous ralentir avant l'entrée dans l'atmosphère et le larguer aussitôt après.
Côté poupe, le rougeoiement s'intensifiait.
« Je compte les conserver durant cette phase, »
déclara Orfu.
« Pourquoi ?»«
Tu verras. »«
Est-il possible que ces réacteurs explosent s'ils surchauffent durant l'entrée dans l'atmosphère ?»«
C'est possible, » grommela l'ionien.
« Nous sommes plutôt mal en point, » insista Manmut. « Ne risquons-nous pas de nous disloquer si la coque est affaiblie par des explosions ?»«
Oui, il y a des chances que cela se produise. »
Orfu activa les réacteurs ioniques. Manmut resta plaqué sur sa couchette anti-jet pendant 30 secondes, à l'issue desquelles il fut libéré de la paralysie, du bruit et des vibrations. Il entendit un choc sourd lorsque l'anneau de contrôle de latitude fut largué dans l'espace. Une étincelle passa devant la caméra de proue, mais celle-ci affichait ce qui se passait derrière eux, car ils progressaient désormais à reculons.
« Nous entrons dans l'atmosphère, » annonça Manmut.
Il remarqua que sa voix était un peu moins posée. Jamais il ne s'était trouvé au sein d'une atmosphère planétaire, et l'idée d'être plongé dans un bain de molécules serrées les unes contre les autres accentuait encore sa nausée.
« Les réacteurs que nous venons de larguer se sont embrasés après avoir été chauffés à blanc, »
poursuivit-il.
« Je vois la poupe qui commence à luire, ainsi que les réacteurs principaux, mais avec moins d'intensité. Le plus gros de la chaleur et de l'onde de choc semble se concentrer autour de la poupe. » Wow, nous sommes distancés par certains des débris, mais ils se consument devant nous. C'est comme si nous nous trouvions dans une gigantesque averse de météores.
Parfait, fit Orfu. Accroche-toi.
Les vestiges du vaisseau spatial Moravec frappèrent l'épaisse atmosphère martienne d'une façon correspondant à la description de Manmut. On aurait dit une averse de météores dont les plus volumineux accusaient une masse de plusieurs tonnes et une longueur de quelques dizaines de mètres. Une centaine d'étoiles filantes sillonnèrent le ciel bleu pâle, tandis qu'une succession de bangs supersoniques brisait le silence régnant sur l'hémisphère nord. Après avoir traversé le ciel au-dessus de la calotte polaire, telle une escadrille d'oiseaux de feu, ces objets célestes filèrent vers le sud, au-dessus de la mer de Tétis, laissant derrière eux de longs sillages de vapeurs plasmiques. On aurait juré qu'ils volaient plutôt que de tomber. Pendant des centaines de millions d'années, l'atmosphère martienne, en majorité composée de dioxyde de carbone, n'avait eu qu'une pression négligeable, 8 hectopascales tout au plus, alors que, sur Terre, elle était de 1014 hectopascales. En moins d'un siècle, à l'issue d'un processus encore incompréhensible pour les Moravec, la planète avait été terraformée et pourvue d'une atmosphère respirable dont la pression atteignait 840 hectopascales. Les étoiles filantes parcoururent l'hémisphère nord en formation plus ou moins bien tenue, signalant leur passage par une série de bangs. Certaines d'entre elles, suffisamment grosses pour survivre à l'entrée dans l'atmosphère, mais assez petites pour être déviées par celle-ci, s'abîmèrent dans les eaux à 800 km du pôle. Un observateur, placé en orbite, aurait pu croire que quelques déités tiraient sur l'océan boréal avec des balles traçantes. La Dame Noire faisait partie de cette salve. La couche de furtivité qui recouvrait sa coque brûla aux deux tiers, alimentant le sillage de plasma en feu qui s'étirait derrière le submersible. Antennes et capteurs externes se consumèrent également. Puis ce fut au tour de la coque de griller, de se cloquer et de s'effriter. Fit Manmut depuis sa couchette.
« On ne devrait pas envisager d'ouvrir les parachutes ?»«
Il connaissait suffisamment bien le programme prévu par Coros pour savoir que les parachutes en fibre de fulrène étaient censés se déployer à 15 000 mètres d'altitude, de façon à les déposer en douceur dans l'océan. Le dernier aperçu qu'il avait eu de celui-ci, avant l'embrasement des capteurs optiques de proue, l'amenait à penser qu'il se trouvait bien au-dessous de 15 000 mètres et qu'il tombait très vite.
« Pas encore, » grommela Orfu.
L'ionien, qui ne disposait pas d'une couchette anti-jet dans la soute, semblait affecté par la forte décélération.
« Utilise ton radar pour déterminer notre altitude, » demanda-t-il.
« Je n'ai plus de radar, » répliqua Manmut.
« Est-ce que ton sonar fonctionne encore ?»«
Je vais voir. »
À sa grande surprise, il constata que tel était le cas et que la surface solide, ou plutôt liquide, de l'océan était maintenant distante de 8200 mètres. 8000, 7800. Il transmit l'information à Orfu et ajouta
« On ouvre les parachutes ?»«
Les autres débris n'en ont pas. »
« Et alors ?»«
Tu tiens à ce qu'on déploie de la toile pour apparaître sur leur capteur ?»«
Quel capteur ?»
rétorqua Manmut. Mais il était bien obligé de reconnaître la validité de cette remarque. Pourtant...
« Altitude 5000 mètres, » annonça-t-il. « Vitesse 1250 km à l'heure. Souhaitons-nous vraiment frapper l'eau avec une telle vélocité ?»«
Pas vraiment, »
répondit Orfu.
« Même si nous survivions à l'impact, nous nous retrouverions enfouis sous des centaines de mètres de vase. Tu ne m'as pas dit que cet océan boréal n'était profond que de quelques centaines de mètres ?»«
Si. »
« Je vais maintenant imprimer une rotation à ton navire.
Hein » « Ah !»
Manmut entendit alors tonner les réacteurs, du moins quelques-uns d'entre eux, et les gyroscopes se mirent à bourdonner, ou plutôt à grincer. La dame noire se mit à tourner sur elle-même, et sa poupe et sa proue changèrent de place. Sous l'effet du vent et de la friction, les capteurs placés en son milieu furent arrachés à sa coque et des brèches s'ouvrirent dans une douzaine de ses compartiments. Manmut désactiva les systèmes d'alarme qui hurlaient à tue-tête. Maintenant que la proue était tournée vers l'avant, l'une des dernières caméras, encore en état de marche, montrait un océan criblé d'éclaboussures, encore que ce terme ne soit guère approprié pour décrire des colonnes de plasma de 2000 mètres de haut, et Manmut comprit quel serait bientôt leur sort. Il décrivit ses impacts à Orfu et conclut
« Les parachutes ? S'il te plaît ?»«
Non. »
Orfu activa les réacteurs principaux, ceux qui auraient dû être largués en orbite. Projeté vers l'avant sous l'effet de la décélération, Manmut regretta de ne pas disposer du gel qui l'avait protégé lors de la manœuvre dans le tube de flux d'Io. De nouvelles colonnes de vapeur, d'un style franchement corinthien, se dressèrent autour du submersible et l'océan emplit la totalité de l'écran vidéo. Les réacteurs rugirent, puis pivotèrent, diminuant la vitesse du bâtiment. Manmut les vit s'écarter de la coque dès qu'ils se turent. Il ne se trouvait qu'à 1000 mètres de l'océan, dont la surface lui paraissait aussi solide que les glaces d'Europe.
« Les paras !»
commença-t-il, adoptant sans honte un ton suppliant. Les deux gigantesques parachutes se déployèrent, le champ visuel de Manmut vira au rouge, puis au noir. Ils frappèrent la mer de Tétis.
« Orfu ?» Orfu ?
Prisonnier des ténèbres et du silence, Manmut s'escrimait à récupérer son flux de données. Son environniche était intact, l'eau d'eux lui parvenait toujours. Stupéfiant. Selon ses horloges internes, 3 minutes s'étaient écoulées depuis l'impact. Leur vitesse était nulle.
Orfu ?
Fit une voix sur le canal radio.
« Chaque fois que je réussis à m'endormir, il faut que tu me réveilles. »«
Comment es-tu ?»«
Où suis-je ? Telle est la question. J'ai été éjecté de ma niche. Je ne suis même plus sûr de me trouver encore à bord de la Dame Noire. Si c'est le cas, alors la coque est brisée. Je suis dans l'eau. Dans l'eau salée. Minute. Peut-être que je me suis pissé dessus. »«
Tu es encore en contact radio ?»
dit Manmut sans relever le trait d'esprit de l'ionien.
« Il est probable que tu te trouves toujours dans la soute. Je reçois quelques données sonars. Nous sommes enfouis dans la vase, mais sous quelques mètres à peine, à environ 80 mètres de profondeur. »
« Je me demande si je suis en plusieurs morceaux, »
dit Orfu d'une voix songeuse.
« Reste où tu es, »
rétorqua Manmut.
Je vais couper le contact radio et te rejoindre. Ne bouge pas.
Grondement d'hilarité.
Comment pourrais-je bouger, mon ami? Tous mes manipulateurs, tous mes flagelles sont partis pour le paradis des Moravec. Je suis un crabe dépourvu de pinces et j'ai des doutes quant à l'intégrité de ma carapace.
Manmut. Attends.
Qu'y a-t-il?
Manmut avait débouclé ses sangles et s'affairait à débrancher cordons ombilicaux et câbles de contrôle virtuel.
Si, je ne sais comment, tu réussis à me rejoindre, en supposant que le corridor interne n'est pas démoli et que les portes de la coque ne sont ni bloquées ni soudées sous l'effet de la chaleur concomitante à notre entrée dans l'atmosphère. Que comptes-tu faire de moi?
Voir si tu vas bien.
Manmut se déconnecta des canaux optiques. De toute façon, tous les écrans étaient au noir.
Réfléchis, mon vieil ami, dit Orfu. Si tu me sors de cette soute, en un seul morceau qui plus est, que vas-tu faire ensuite? Jamais je ne rentrerai dans tes corridors internes. Même si tu me fais passer par l'extérieur de ton submersible, je ne peux pas me loger dans ton environniche et je peux encore moins m'accrocher à ta coque. Envisages-tu de faire 1000 kilomètres à pied sur les fonds marins tout en me portant sur ton dos?
Manmut hésita.
Je suis toujours en état de fonctionner, poursuivit Orfu, ou à tout le moins de communiquer. Je reçois même un peu d'O2 par mon ombilical ainsi qu'un filet d'électricité. Je me trouve sans doute dans la soute, bien que celle-ci soit inondée. Avant de songer à me rejoindre, je te propose de réactiver la Dame Noire et de nous conduire dans un endroit plus confortable.
Manmut passa en mode respiratoire et inspira profondément à plusieurs reprises.
« Tu as raison, »
dit-il finalement.
« Je vais voir ce que je peux faire. »
La Dame Noire se mourait. Cela faisait plus d'un siècle terrien que Manmut travaillait dans ce submersible, qu'il avait traversé diverses itérations et évolutions, et il en connaissait la robustesse. Correctement préparé, il était capable de résister à une pression de plusieurs tonnes par centimètre carré et au stress consécutif à une accélération de 3000 G. Mais une chaîne est aussi solide que ses maillons les plus faibles, et ceux-ci avaient succombé à l'attaque qu'ils avaient subie en orbite martienne. Sa coque présentait des dommages irréparables, dus au stress et à la surchauffe. Pour le moment, il était planté dans la vase et dans la terre, seule sa poupe émergeant sur quelques mètres de haut, gauchie de partout, avec des écoutilles aussi inaccessibles qu'impraticables et 10 ballasts sur 18 remplis de flotte. La coursive reliant la salle de contrôle à la soute était inondée et en partie défoncée. Les 2/3 de la couche de furtivité avaient été calcinés et tous les capteurs externes avec eux. 3 batteries de sonar sur 4 étaient hors de service et la 4e était bloquée sur l'avant. Un seul des 4 propulseurs était opérationnel et les modules de manœuvre étaient en triste état. Mais Manmut se souciait davantage des dégâts subis par les systèmes énergétiques. Frappé par une explosion électronique durant l'attaque, le réacteur primaire ne fonctionnait qu'à 8% de sa capacité. Les cellules de stockage étaient en alimentation de secours. Il pouvait encore faire tourner les systèmes environnementaux, mais le convertisseur de nutriments était foutu et les réserves d'eau douce ne dureraient que quelques jours. Et le convertisseur d'O2 ne fonctionnait plus. Les cellules avaient cessé de produire de l'air. Les 2 Moravec seraient à court d'oxygène bien avant de souffrir de la pénurie d'eau et de nourriture. Manmut disposait d'une réserve interne, mais elle ne lui permettrait de tenir qu'un jour ou deux. Vu qu'Orfu était équipé pour travailler plusieurs mois d'affilée dans le vide spatial, il espérait que le manque d'oxygène ne l'affecterait pas trop. Il décida d'attendre un peu pour évoquer ce problème avec lui. Les IA survivantes du submersible transmirent de nouveaux rapports alarmants. Pour sauver la Dame Noire, il aurait fallu lui imposer 1 mois de cale sèche à Connemara Central et la confier à une bonne 20aine de Moravec spécialisés. Ces jours, qu'on les mesure en fonction des normes de Mars, de la Terre ou d'Europe, étaient donc comptés. Veillant à garder le contact avec Orfu, en dépit du silence qu'observait celui-ci, comme s'il avait redouté que son ami meure sans prévenir, Manmut se fendit du rapport le plus optimiste possible et lança une bouée périscopique. Celle-ci, déployée à partir de la section de la proue émergeant du fond marin, était encore fonctionnelle. Quoique plus petite encore que la main de Manmut, elle recevait une foultitude de capteurs visuels et autres. Les informations affluèrent.
Bonne nouvelle, annonça Manmut.
Le consortium des cinq lunes nous envoie des secours, maugréa Orfu.
Non, quand même pas. Plutôt que télécharger les données non visuelles, Manmut préféra les résumer afin de garder le contact avec son ami.
La bouée est opérationnelle. Mieux, les satellites de communication et d'aéropositionnement que Coros 3 et Ripo ont placés sur orbite s'y trouvent toujours. Je me demande pourquoi ceux qui nous ont attaqués ne les ont pas pulvérisés.
Nous avons été attaqués par le dieu de l'Ancien Testament et sa copine,
rétorqua Orfu.
Peut-être ne daigne-t-il même pas remarquer de vulgaires satellites.
Il m'évoquait davantage la Grèce antique que l'Ancien Testament. Souhaites-tu être informé des données que je reçois?
Bien sûr.
Selon le satellite d'aéropositionnement, nous nous trouvons dans la partie sud de la région de Crisée-Planitia, dans l'océan Boréal, à 340 km à peine de la côte de Xanthéterra. Nous avons eu de la chance. Cette partie de la mer d'Acidalia et de Crisée est en quelque sorte une gigantesque baie. Si notre trajectoire nous avait conduit un peu plus à l'ouest, nous nous serions écrasés sur les collines de Tempeterra. Un peu plus à l'est, c'était Arabiaterra. Si nous avions survolé les Highlands de Xanthéterra quelques secondes de plus,
nous serions réduits à l'état de particules dans les hautes couches de l'atmosphère,
acheva Orfu.
Exactement. Mais, à condition de dégager la Dame Noire, nous pouvons gagner le delta de Valles Marineris si nous y sommes obligés.
Coros et toi étiez supposés atterrir dans l'autre hémisphère, au nord d'Olympus Mons. Votre mission était d'effectuer une reconnaissance et de déposer sur le volcan cet engin dans la soute. Ne me dis pas que l'état du submersible lui permet de faire le tour de la péninsule de Tempeterra avec nous deux à son bord.
Non,
admit Manmut. À vrai dire, ils auraient une veine de pendu si la Dame Noire restait fonctionnelle et en un seul morceau assez longtemps pour leur permettre d'atteindre la Terre la plus proche. Mais il se garda bien de l'avouer à Lyonien.
D'autres bonnes nouvelles ?
S'enquit ce dernier.
Eh bien, la journée est plutôt belle à la surface. De l'eau à perte de vue me rapporte la bouée, des creux modérés ne dépassant pas un mètre, un ciel azur, température légèrement inférieure à 30 degrés.
Est-ce qu'ils nous recherchent?
Pardon?
Est-ce que les personnes qui nous ont attaqués sont à notre recherche?
Oui, répondit Manmut. Le radar a détecté des machines volantes.
Des chars.
Des machines volantes quadrillant la zone d'impact des débris sur une surface de plusieurs milliers de kilomètres carrés.
Ils nous cherchent.
Aucune trace de détection au radar ou au neutrino. Aucun spectre énergétique, quel qu'il soit.
Peuvent-ils nous détecter, Manmut?
Demanda Orfu d'une voix neutre. Manmut hésita. Il ne voulait pas mentir à son ami.
C'est possible, reconnut-il. Ce serait une quasi-certitude s'il disposait d'une technologie Moravec, mais cela ne semble pas être le cas. On dirait qu'ils se contentent de regarder, avec leurs yeux, et peut-être avec des magnétomètres.
Ils n'ont eu aucun mal à nous repérer en orbite, à nous prendre pour cible.
Oui.
Le char ou ses occupants disposaient d'un système de visée capable d'opérer à 8000 km de distance. Aucun doute n'était permis sur ce point.
Tu as rentré ta bouée.
Oui,
fit Manmut. Suivirent plusieurs secondes de silence, durant lesquelles on entendit que les grincements de la coque endommagée, les sifflements de la ventilation et le bourdonnement saccadé produit par les pompes s'efforçant en vain de vider les sections noyées.
Nous avons plusieurs points en notre faveur, déclara finalement Manmut. Primo, il y a des tonnes et des tonnes de débris métalliques dans leur zone de recherche, et celle-ci est fort étendue. Les premiers impacts se sont produits à proximité de la calotte polaire. Secondo, nous sommes plantés dans le sol côté proue, et la partie de la poupe émergeant de la vase est encore partiellement recouverte d'une couche de furtivité. Tertio, notre dépense d'énergie est si faible que nous n'avons pratiquement pas de signature. Quarto...
Oui, souffla Orfu.
Manmut pensa à l'état de leurs réserves d'énergie comme d'eau et de nourriture et à celui de leur système de propulsion.
« Quarto ?»
répéta-t-il.
« Ils ignorent toujours la raison de notre présence ici. »
Orfu émit un grondement sourd.
« C'est aussi notre cas, mon ami. »
Au bout d'une minute de silence, il reprit.
« Enfin, tu as raison. S'ils ne nous ont pas détectés dans quelques heures, nous avons sans doute une chance. À moins qu'il n'y ait aussi des mauvaises nouvelles. »
Manmut hésita.
« Nous avons un léger problème en ce qui concerne notre approvisionnement en air, »
dit-il finalement.
« Grave. »
« Nous n'en produisons plus. »
« Ça, c'est un vrai problème, »
commenta l'Ionien.
« Quelles sont nos réserves ?»«
Environ 80 heures. » « En nous prenant tous les deux en compte, je précise. Probablement deux fois plus, voire davantage, en ne considérant que moi. »
Orfu émit un grondement mélodieux.
« En ne considérant que toi, aurais-tu l'intention de me couper l'oxygène, mon vieil ami ? Mes éléments organiques ont eux aussi besoin d'air, tu sais. »
Manmut resta muet une seconde.
« Je croyais... Tu es configuré pour le vide spatial. Je veux dire... »
« Tu t'es dit que je pouvais passer des mois dans l'espace sans avoir recours au système d'IO. »
soupira Orfu.
Que je produisais mon propre oxygène grâce à mes cellules énergétiques internes alimentées par les capteurs photovoltaïques de ma carapace.
Manmut se calma peu à peu. Leurs chances de survie seraient multipliées par deux si Orfu n'avait pas besoin de l'oxygène submersible.
Malheureusement, mes capteurs photovoltaïques ont été détruits,
dit doucement Orfu.
Et mes cellules ont cessé de produire de l'O2 depuis l'attaque en orbite. Je ne survis que grâce aux réserves de ton navire. Je suis navré, Manmut.
Écoute, dit ce dernier d'une voix décidée. De toute façon, j'avais l'intention de continuer à nous alimenter tous les deux. Ce n'est pas le problème. J'ai fait les calculs. Vu notre taux de consommation présent, nous disposons d'environ 80 heures. Et je peux réduire ce taux. La salle de contrôle et mon environnement sont inondés. Je vais régler ce problème et rééquilibrer le submersible. 80 heures de patience, et ensuite, on montera à la surface pour prendre l'air. Ils auront sûrement terminé leur recherche d'ici là.
Tu es sûr de pouvoir dégager la dame noire de sa gang de boue ?
Affirmatif,
mentit Manmut d'une voix ferme.
Je vote pour que nous restions planqués là où nous sommes pendant, disons, 3 journées martiennes, c'est-à-dire 73 heures, pour voir si les chars mettent un terme à leur recherche. Ou alors nous attendons 12 heures après notre dernière réception radar, l'un ou l'autre. Aurons-nous alors assez de temps pour nous dégager et faire surface, le tout sans dépenser la totalité de nos réserves d'oxygène et d'énergie ?
Manmut considéra la console virtuelle qui lui faisait face, criblée de signaux d'alarme et de voyants éteints.
« La durée de 73 heures me paraît amplement suffisante, » dit-il. « Mais si les chars renoncent avant cela, nous devrions monter à la surface et filer vers la côte. Vu l'état du réacteur, la dame est capable de progresser en surface à une vitesse de 20 nœuds, de sorte qu'il nous faudra au moins 1 jour et demi pour toucher terre, en particulier si nous nous montrons exigeants pour ce qui est du point de débarquement. »«
Alors nous éviterons d'être trop exigeants, » répliqua Orfu. « Bon, il semble que l'ennui soit la seule menace que nous aurons à redouter durant les 2 prochains jours. » « Et si nous jouions au poker ? As-tu emporté les cartes virtuelles ?»«
Oui !»
fit Manmut avec enthousiasme.
« Tu n'irais pas jusqu'à profiter de ma cécité, n'est-ce pas ?»
Manmut se figea alors qu'il venait de lancer le téléchargement de la table de jeu recouverte de feutre vert.
« Je plaisantais, nom de Dieu !»
s'exclama Orfu.
« Mes cellules visuelles ont disparu, mais j'ai encore ma mémoire et une bonne partie de mon cerveau. »
« Jouons donc aux échecs !»
3 journées martiennes représentaient 73,8 heures, et Manmut ne tenait pas à passer autant de temps dans la vase. Le réacteur perdait de la puissance à un rythme plus élevé qu'il ne l'aurait cru, les pompes consommaient plus d'énergie que prévu, et les systèmes environnementaux menaçaient de céder. Profitant de leur première période de sommeil, Manmut passa sur le régime de secours, s'empara de pinces et de leviers, et s'engagea dans les étroits corridors conduisant à la soute. Les coursives étaient envahies par les eaux, les puits de descente privés d'énergie et plongés dans les ténèbres. Manmut activa ses lampes intégrées et nagea au ras du sol. L'océan martien était nettement plus chaud que les mers d'Europe. Alors qu'il arrivait à 10 mètres du but, il constata que des poutrelles brisées lui bloquaient le passage. Le chalumeau eut raison de cet obstacle. Il devait absolument examiner Orfu. Manmut se retrouva de nouveau bloqué à 2 mètres du sas permettant d'accéder à la soute. Le choc avait gauchi et déplacé les deux cloisons, les plaquant l'une contre l'autre. Le corridor, déjà étroit, ne faisait plus que 10 centimètres de large. Manmut apercevait les coutilles du sas, verrouillées, bloquées, distordues, sans pouvoir s'en approcher. Il allait donc devoir ouvrir une brèche dans l'une des épaisses cloisons et, sans aucun doute, dans l'écoutille elle-même. Cela lui prendrait 6 ou 7 heures d'effort et lui poserait un nouveau problème. Le chalumeau, lui aussi, consumait de l'oxygène. Leur réserve d'air allait encore s'amenuiser. Manmut resta immobile dans les ténèbres durant plusieurs minutes, contemplant les particules de vase qui flottaient dans les faisceaux jumeaux de ses lampes. Il devait prendre une décision tout de suite. Une fois qu'Orfu serait réveillé et comprendrait ce qu'il faisait, il ferait tout son possible pour l'en dissuader. Et même si Manmut réussissait à s'ouvrir un passage au bout de 6 ou 7 heures, il ne serait pas plus avancé, car l'Ionien avait raison. Jamais il ne parviendrait à le déplacer tant que le submersible resterait coincé dans la vase. Quant aux premiers secours qu'il pourrait lui dispenser, il se limiterait à ceux dont il disposait à bord pour sa propre personne. Peut-être n'était-il même pas adapté au gigantesque Moravec. Si Manmut réussissait à dégager la Dame Noire et à gagner la surface, alors, et alors seulement, il pourrait se permettre de rejoindre Orfu, même s'il lui fallait pour cela démolir son navire à coups de chalumeau. Il n'aurait plus de problème d'O2 à ce moment-là. Et il pourrait faire sortir l'Ionien de sa prison, s'il en avait envie, l'arrimer à la coque afin qu'il profite du soleil et du grand air. Manmut fit demi-tour en se propulsant d'un coup de pied et remonta le long du corridor tout tordu, regagnant son espace personnel une fois qu'il eut franchi le sas. Plus tard. Il venait à peine de s'allonger sur sa couchette que la voix d'Orfu se fit entendre sur le canal radio.
« Tu es réveillé, Manmut ?»«
Oui. »«
Où es-tu ?»«
Dans la salle de contrôle. Où veux-tu que je sois ?»«
Oui. » fit Orfu d'une voix empreinte de lassitude. « Mais je rêvais. J'ai cru sentir une vibration. Je croyais que tu... Je ne sais pas. »«
Rendors-toi, » dit Manmut,
car les Moravec dormaient, ne fût-ce que pour rêver.
« Je te réveillerai dans 2 heures, »
ajouta-t-il,
« pour le rapport de la bouée. »
Manmut ne déployait la bouée périscopique que quelques secondes toutes les 12 heures, l'escamotant après un rapide examen des cieux et des eaux. Au bout de 49 heures, les machines volantes continuaient de quadriller le ciel jour et nuit, mais elles patrouillaient maintenant plus au nord dans les régions polaires. Manmut était relativement bien installé, sa salle de contrôle et l'environniche adjacente étaient intactes, bien chaudes, et leur gîte était à peine perceptible. Il pouvait s'y déplacer à son aise. Nombre des espaces habitables s'étaient retrouvés envahis par les eaux, notamment le labo et l'ancienne cabine d'Urzweil, mais Manmut ne prit pas la peine d'y injecter de l'air une fois que les pompes les eurent nettoyées. En fait, il s'était empressé de se brancher sur son cordon ombilical et de mettre en réserve tout l'oxygène de son espace personnel à l'issue de sa première conversation avec Orfu. Dans son fort intérieur, il se disait que c'était pour économiser de l'O2, mais en vérité, il avait un peu honte de son petit confort quand il pensait aux souffrances qu'endurait Orfu, des souffrances existentielles à tout le moins, seul au sein des ténèbres de la soute. Manmut ne pouvait rien faire pour lui, du moins tant que le submersible restait coincé dans la vase, mais il se rendit au labo pour bricoler des porcom et autres accessoires qui lui seraient utiles s'il réussissait à libérer l'Ionien.
Et à me libérer moi-même,
songea Manmut, bien que l'abandon de la Dame Noire n'ait rien d'une libération à ses yeux. Tous les cryorobots des profondeurs européens avaient porté en eux le germe de l'agoraphobie, la terreur des grands espaces, et leurs descendants, les Moravec évolués, en avaient hérité. Le deuxième jour, à l'issue de leur 8e partie d'échecs, Orfu déclara
La Dame Noire dispose d'une sorte de canot de sauvetage, n'est-ce pas ?
Manmut avait espéré qu'Orfu ignorerait ce fait.
« Oui, »
admit-il.
« En quoi consiste-t-il ? »
« C'est une petite envirobule, »
répondit Manmut, que ce sujet mettait de fort méchante humeur.
« À peine plus grosse que moi. » « En grande partie conçue pour me permettre de survivre aux fortes pressions et de gagner la surface. »
« Mais elle est équipée d'une balise, de ses propres systèmes environnementaux et de systèmes de navigation et de propulsion, avec des réserves d'eau et de nourriture. »
« Oui, et alors ?»«
Tu ne rentrerais jamais dedans et elle n'est pas assez puissante pour te remorquer. »«
Rien, »
fit Orfu.
« L'idée d'abandonner la Dame Noire me répugne, »
déclara Manmut, parfaitement sincère.
« Et je ne suis pas obligé de l'envisager pour le moment. Pas avant plusieurs jours. »«
D'accord. »
« Je parle sérieusement. »«
D'accord, Manmut. Simple curiosité de ma part. »
Si Orfu avait émis le grondement qui lui servait de rire, peut-être que Manmut aurait filé dans cette fameuse envirobule pour lui fausser compagnie. Il en voulait à Lyonien d'avoir abordé ce sujet.
« Tu veux faire une nouvelle partie d'échecs ? »
demanda-t-il.
« Plus jamais !»
répliqua Orfu. 61 heures après l'amérissage, le radar ne détectait plus qu'un seul char dans le ciel, mais ce dernier rôdait à 10 kilomètres de leur position, maintenant une altitude de 8000 mètres. Manmut battit des records de vitesse en ramenant sa bouée. Il passa les heures suivantes à écouter de la musique sur l'intercom, Brahms, vraisemblablement imité par Orfu dans sa soute. Soudain, Lyonien lui demanda
« Tu ne t'es jamais demandé pourquoi nous étions tous deux des humanistes, Manmut ?»«
Que veux-tu dire ?»«
Eh bien, des amateurs d'humanité. » »« Les Moraveks se partagent en deux catégories. Ceux qui, comme nous, se passionnent pour l'espèce humaine et ceux qui, comme Koros III, sont du genre interactif. Ce sont eux qui forgent la société Moravek, qui créent des consortiums comme celui des Cinq Lunes, qui fondent des partis politiques, etc. »
Je n'avais jamais remarqué.
Tu me charries, là.
Manmut resta muet. Il commençait à se rendre compte qu'en un siècle et demi d'existence, il s'était débrouillé pour rester d'une ignorance crasse. Son univers se limitait aux mers glaciales d'Europe, qu'il ne reverrait jamais, et à son submersible, qui cesserait d'exister en tant qu'entité fonctionnelle dans quelques heures, quelques jours tout au plus. Plus les sonnets et les pièces de Shakespeare. Ce fut à grand-peine qu'il se retint de rire. Et peut-on imaginer quelque chose plus inutile ? Comme s'il lisait dans ses pensées, Orfu demanda
« Que dirait le barde pour commenter nos épreuves ?»
Manmut était occupé à analyser les données énergétiques et les courbes de consommation. Pas question d'attendre que 73 heures se soient écoulées. Ils allaient devoir passer à l'action dans les 6 prochaines heures. En outre, s'ils échouaient à se libérer du premier coup, le réacteur risquait de tomber en panne ou alors de surchauffer et...
Manmut.
Pardon, je somnolais. Que disais-tu à propos du barde ?
Il a sûrement son mot à dire en matière de naufrage. Si je me souviens bien, on trouve quantité de vaisseaux naufragés dans ses pièces.
Oh oui, ça ne manque pas. La nuit des rois, la tempête, etc. Mais je ne vois rien dans ses pièces qui soit susceptible de nous aider.
« Parle-moi de ces naufrages. »
Manmut secoua la tête. Il savait qu'Orfu ne cherchait qu'à le distraire de leurs épreuves.
« Parle-moi plutôt de ton cher Proust. Le narrateur Marcel évoque-t-il des naufragés perdus sur Mars ?»«
Justement, oui, »
répondit Orfu en émettant un léger grondement.
« Tu plaisantes. »
« Je ne plaisante jamais quand il est question de la recherche du temps perdu. »
répliqua Orfu sur un ton qui faillit seulement, convaincre Manmut qu'il parlait sérieusement.
« Très bien. Que dit Proust à propos de la survie sur Mars ?»
Dans 5 minutes, il allait à nouveau déployer la bouée périscopique et monter à la surface, même si ce char planait 10 mètres au-dessus d'eux.
« Dans le 3e tome de l'édition originale, qui correspond au 5e de la traduction anglaise que je t'ai téléchargée, Marcel déclare que si nous nous retrouvions soudain sur Mars, pourvus d'une paire d'ailes et d'un nouveau système respiratoire, cela ne nous ferait pas pour autant sortir de nous-mêmes. Pas tant que nous conserverions les sens qui sont les nôtres. Et la conscience qui est la nôtre.
Tu plaisantes?
Je ne plaisante jamais quand il est question des perceptions de Marcel dans « À la recherche du temps perdu »,
répliqua Orfu. À en juger par son ton, il plaisantait, certes, mais pas à propos de cette étrange référence martienne.
Tu n'as donc pas lu les éditions que je t'ai envoyées au début de notre voyage?
Si, je les ai lues, mais j'ai un peu survolé les 2000 dernières pages.
Tu n'es pas le seul dans ce cas, je te l'accorde. Écoute donc ce passage qui suit celui sur les ailes et les poumons martiens. Tu le veux en français ou en anglais?
En anglais,
s'empressa de répondre Manmut.
Peut-être allait-il bientôt périr suffoqué, et il ne tenait pas à subir l'épreuve supplémentaire d'une citation en français.
Le seul véritable voyage, le seul bain de jouvence, ce ne serait pas d'aller vers de nouveaux paysages, mais d'avoir d'autres yeux, de voir l'univers avec les yeux d'un autre, de 100 autres, de voir les 100 univers que chacun d'eux voit, que chacun d'eux est.
Plongé dans ses réflexions, Manmut oublia durant une minute la mort par asphyxie qui les menaçait.
C'est la 4e et dernière réponse de Marcel à l'énigme de la vie, n'est-ce pas, Orfu?
L'Ionien ne répondit pas.
Tu m'as dit que les 3 premières tentatives de Marcel avaient échoué,
reprit Manmut.
Il a tout d'abord tenté de croire au snobisme, puis il a essayé de croire à l'amour et à l'amitié. Il s'est efforcé de croire à l'art. Rien de tout cela ne lui a apporté la transcendance. Voici donc sa 4e tentative. À savoir,
il se retrouva incapable de trouver une formulation adéquate.
La conscience échappant aux limites de la conscience, dit doucement Orfu. L'imagination dépassant les bornes de l'imagination.
Oui, souffla Manmut. Je vois.
Il faut que tu le vois. Tu as mes yeux désormais. J'ai besoin de voir l'univers par l'entremise de tes yeux.
L'espace d'une minute, le silence ne fut rompu que par le sifflement de l'eau d'œuf dans l'ombilical. Puis Manmut déclara
« Essayons maintenant de dégager la dame noire. »
« Et la bouée périscopique ?»«
S'ils sont encore là à nous guetter, qu'ils aillent au diable. Je préfère mourir en combattant que de rester ici à m'étouffer dans la vase. »«
Très bien, » fit Orfu. Tu as dit « Essayons de dégager la dame noire ». Doutes-tu d'être en mesure de nous arracher à la vase?
J'ignore totalement si nous sommes capables de nous extirper de cette saleté,
répondit Manmut en abaissant des leviers virtuels pour activer le réacteur, armer les tuyères et les pyros.
Mais nous allons tenter le coup dans 18 secondes. Accroche-toi, mon ami.
« Vu que mes grappins, mes manipulateurs et mes flagelles ont disparu, je présume que tu parles au sens figuré. »«
Accroche-toi avec tes dents !» lança Manmut. « 6 secondes !»«
Je suis un mort avec !» dit Orfu, quelque peu indigné. « Je n'ai pas de dents !»« Que comptes-tu ?»
Soudain, le canalcom fut étouffé par la mise à feu de toutes les tuyères, par le grincement de toutes les cloisons résistant au stress, par un gémissement généralisé. Et la dame noire lutta de toutes ses forces pour se libérer de l'étreinte visqueuse de Mars.